Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour entamer ensemble cette toute nouvelle année scientifique. L'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année avec tous ceux que vous aimez. Jusqu'à demain, je vous propose de retrouver chaque jour deux dossiers que nous avions envie de partager à nouveau avec vous. Et aujourd'hui, nous replongeons dans le subconscient avec le professeur Yves Agide. Et puis, on s'intéressera au cerveau mélomane avec le psychologue Emmanuel Bigan et le neuropsychologue Hervé Platel. C'est Céline Hilla qui réalise aujourd'hui l'émission.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les Rolling Stones avec Emotional Rescue. À chaque instant de notre vie, nous réalisons des actions routinières sans y penser avec notre cerveau qui reçoit en permanence une quantité d'informations très importante à gérer. On peut dire d'ailleurs de notre cerveau qu'il possède une fonction pilotage automatique et c'est cette fonction justement qui nous intéresse et que l'on doit au subconscient. Yves Agide est professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire. Il publiait cette année chez Robert Laffont L'homme subconscient. Au sein même d'ailleurs de la communauté scientifique, ce terme et cette notion sont très discutés. Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition que l'on en donne, Yves Agide.
Je pense que ce concept revient maintenant vraiment à la mode. Il a été mis en évidence, ou on en a parlé finalement, les philosophes depuis fort longtemps, Leibniz, par exemple, avec les petites perceptions. Mais les premiers qui en ont vraiment parlé sont les Français. C'est Pierre Janet, à la fin du 19e siècle, Théodore Ribot. Et ensuite, c'est l'inconscient qui a gagné.
Alors c'est ça, oui.
Et ça revient, pas à la mode, je ne devrais pas dire ça, mais on en reparle, on a des raisons d'en reparler. Pourquoi ? Parce qu'on comprend à peu près comment ça marche.
Oui, maintenant, on a des outils aussi.
À cause des progrès de la science.
Oui. Alors, Freud en a parlé, lui, ou pas ? Il a employé le terme ?
Il l'a écarté.
Oui.
Et ça se pose la question de la distinction entre ce qu'on appelle la subconscience et l'inconscient freudien.
Ouais.
Donc, il faut définir ce que c'est que la subconscience.
Alors, on y va tout de suite, Yves Agide, effectivement. D'abord, est-ce qu'on le trouve que chez l'homme, le subconscient, ou est-ce que c'est partagé par toutes les espèces animales ?
On le trouve chez tous les animaux qui disposent de certaines structures cérébrales profondes qu'on appelle les noyaux gris centraux.
Les noyaux gris centraux, qui sont
des toutes petites structures qu'on trouve à la base de notre cerveau.
On en a beaucoup de ces noyaux ?
C'est un groupe de structures, ça représente 1/50 du poids du cerveau, c'est pas beaucoup, c'est tout petit. Et c'est apparu chez les poissons, c'est-à-dire il y a 800 millions d'années. Autrement dit, tous les animaux depuis les poissons, à des degrés évidemment divers, chez les poissons complètement élémentaires, chez, par exemple, chez les reptiles ou chez les oiseaux, c'est très développé. Et ces animaux n'ont pratiquement que ça. Donc tous leurs comportements sont subconscients, Tandis que nous, on a en plus, on peut se désengager de cette subconscience pour avoir vraiment une conscience d'être.
Donc on peut dire que le subconscient a 800 millions d'années. En gros, c'est ça. Si on fait vraiment un raccourci terrible.
Il faut le dire de manière, à condition de le dire de manière asymptotique. Au début, c'était quasiment nul. Et puis maintenant, évidemment, ça a pris une dimension très importante.
Alors justement, on parle de la pensée, évidemment, puisqu'on est dans ce domaine du subconscient. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui, justement, autour de cette question ? À partir de quel stade, par exemple, de développement du système nerveux, on peut véritablement parler de pensée ?
Alors, ça, c'est aussi un débat. Quand vous parlez de la pensée au sens où nous l'entendons, c'est probablement tout récent dans le langage courant. Est-ce qu'un chat a une pensée ? Est-ce qu'un rat a une pensée ? Est-ce qu'un petit oiseau a une pensée ? Il y a des gens qui vous diront non. Moi, je pense qu'une manière de voir les choses, c'est de voir les choses de manière continue. Je dirais les choses comme ça. Une pensée, ça vient de peser, pensare, et c'est un processus mental qui est totalement développé chez l'homme, qui peut se transmettre d'un individu à un autre par le langage ou par l'observation, et qui est infiniment petit chez les tout petits animaux. Donc une pensée, pour moi, apparaît de manière infinitésimale à partir du moment où il y a un système nerveux. Par exemple, un ver de terre, comme Caenorhabdictis elegans, qui est tout petit ver de terre, il y a 1000 cellules, il y a 300 cellules qui sont des cellules nerveuses, un tiers des cellules. Oui. Eh bien, on peut penser que ces animaux ont une pensée, mais qui est infiniment petite, oui, qui est comme une sorte de petit réflexe, si vous voulez.
La pensée du ver de terre.
Ce que je ne voudrais pas dire parce que j'ai peur de choquer pas mal de mes collègues.
J'essaie de faire des raccourcis.
Mais je pense que c'est bon de voir une continue parce que finalement, une pensée, le grand problème, c'est qu'on ne sait pas comment le cerveau ou le système nerveux qui est matériel produit de la pensée qui est immatériel,
alors,
jusqu'à preuve du contraire.
Est-ce qu'on va jusqu'à la conscience, alors ? Parce que là, on parle de la pensée, mais est-ce qu'on peut dire pour autant que certains animaux ont une conscience ? Pour revenir justement à ce que vous commencez à développer tout à l'heure.
Il faut aller un petit peu loin dans les définitions. À partir du moment où on a des pensées, c'est un processus mental qui est produit par le cerveau. Que fait le cerveau ? Il reçoit des perceptions de la vue, de l'odorat, du goût, etc., de l'audition surtout, et il traite ces informations perçues et il va produire de l'action, c'est-à-dire du mouvement. Par exemple, ce que je fais en ce moment, j'agite mes mains pour vous convaincre et je parle, je fais bouger mon larynx, ma langue et ma bouche pour dire des choses. C'est du mouvement. Et entre les deux, il y a de la production de pensée. Et cette pensée, ce qui nous intéresse le plus pour moi, c'est qu'elle peut être soit consciente, soit subconsciente, soit préconsciente. Alors, pour simplifier, il faut que je définisse ce que c'est que la subconscience, peut-être.
Oui, on y va.
La subconscience, c'est nos comportements automatiques. Par exemple, quand vous prenez de la nourriture, vous mangez, quand vous brossez les dents, vous mettez votre ceinture, c'est des gestes qui sont tout à fait automatiques, auxquels vous ne pensez pas nécessairement.
Le fait d'être dans la foule, par exemple, et de ne pas heurter les personnes à côté desquelles on marche.
C'est ce que je raconte dans le bouquin.
Voilà.
Le plus bel exemple, c'est quand même la conduite automobile. Nous sommes ensemble dans ma voiture, je conduis, vous êtes à côté de moi et je vous raconte une histoire. On est place de l'Étoile à 6h du soir, c'est des encombrements partout, il y a des feux rouges, il y a des voitures qui passent, des piétons qui manquent de se faire écraser, je freine, j'accélère, etc. Et tout ça, je le fais sans y penser. Je le fais sans même m'en rendre compte. C'est comme si ces mouvements se faisaient automatiquement. Pas seulement du mouvement, c'est aussi des perceptions, parce que je vois ces voitures. Et c'est ça la subconscience. La meilleure manière de le définir, c'est je ne pense pas que je fais quelque chose, je ne pense pas que je perçois quelque chose, je ne pense pas même que je pense. Mais c'est automatique, c'est tous les comportements automatiques. Donc pour moi, c'est le pilote automatique qui nous permet de survivre. Mais on peut se désengager de cette pensée automatique, de ce comportement automatique. Par exemple, si je suis place de l'Étoile, tout d'un coup, par exemple, il peut y avoir une hésitation, un élan d'encombrement. Au lieu de descendre vers l'avenue des Champs-Élysées, je vais prendre l'avenue Marceau et je vais me dire, moi, je vais plutôt choisir l'avenue Marceau. Ça n'est pas totalement automatique. Là, je me suis désengagé de mon comportement subconscient pour avoir une pensée plus consciente.
Ouais. Donc le cerveau, en fait, il passe de ces différents états en permanence, au fond.
En permanence. C'est ça, hein, en permanence. On est en subconscience en permanence, avec deux idées fondamentales. C'est présent chez tous les animaux de puis les poissons. Et là, deuxièmement, c'est permanent.
C'est permanent. C'est-à-dire que quand on passe à l'état de conscience, il nous reste quand même cet état de subconscience qui fonctionne.
On se désengage, c'est ce que je racontais. Tout à l'heure, je conduisais ma voiture avec vous. Mais je peux vous dire des choses c'est un comportement non...
Donc il y a une superposition des états, au fond.
Oui, vous avez raison. C'est mieux de le dire comme ça. C'est une addition. Quand je suis conscient, j'additionne mon comportement conscient à un comportement subconscient.
Alors, Yves Agide, on est passé donc de la conscience à la subconscience et on a laissé au passage la préconscience que vous évoquez aussi. On peut en dire quand même un petit mot parce qu'il y a des interactions entre tout ça.
La préconscience, c'est ce que vous faites quand vous ne pensez pas à vous-même, mais que vous avez un comportement qui n'est plus automatique. Par exemple, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la... Je choisis d'aller avenue Marceau au lieu de prendre l'avenue Champs-Élysées. Ça, tout d'un coup, je me suis dit, ouh là là, si je vais aller là, on va perdre du temps. Donc, je choisis. Ça n'est pas automatique, ça. Ouais. Tandis que la conduite dont je vous parlais tout à l'heure était automatique. Donc, c'est un choix non automatique. Autrement dit, la préconscience, c'est je ne pense pas que je fais quelque chose, mais je le fais, mais attention, ce n'est pas automatique. C'est ce que nous faisons en ce moment. J'essaie de concentrer ma pensée sur ce que je vais dire. Ça n'est pas complètement automatique, du moins je l'espère.
Bon, donc il y a une petite nuance quand même. Et de taille. Donc le conscient, le préconscient, le subconscient, et tout ça, c'est interdépendant.
C'est interdépendant, mais ce n'est pas géré par les mêmes structures. Ouais. Ça, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tout ce qui est conscient, au sens noble du terme, qui est vraiment le propre de l'homme, c'est géré par la partie superficielle de notre cerveau, qui est énorme par rapport à celui des autres animaux, en particulier par ce qu'on appelle le cortex, et notamment en avant le cortex frontal qui est derrière le front. Et ça, je pense que je fais ou je pense que je pense simplement, c'est la conscience. Et comme les animaux, qui ne sont pas des primates, ont très peu de cortex, voire presque pas, à ce moment-là, effectivement, ils ont très peu de conscience.
Le corbeau aussi a un gros cerveau par rapport à la taille de son
corps. Non, il a un petit cerveau, mais il a un peu de cortex. Ouais. Et on peut dire qu'il a une... C'est un animal extrêmement intelligent, qui est capable de mentir, qui est capable de jouer.
De trouver des solutions à des problèmes importants.
Bien sûr.
Il y a des stratégies.
Absolument étonnantes. Ouais. Ils peuvent descendre, ils jouent, ils se jettent dans le vide, ils peuvent mentir, faire semblant de cacher des graines quelque part. S'il y a un autre corbeau qui les voit, et il les met quelque part, et quand l'autre est parti, il va chercher sa graine, il va la disposer dans un autre endroit pour que l'autre se trompe. C'est formidable.
Alors, chez les animaux, justement, pour prouver que certains animaux ont une forme de conscience, en tout cas, il y a le test du miroir. C'est un test qui est très simple, mais qui est assez parlant au fond. C'est-à-dire qu'on peint, par exemple, une tache sur le front d'un éléphant ou d'un singe.
Par exemple, un éléphant, et il ne peut pas le voir, puisque c'est sur son front. Voilà. Et on le met devant un miroir. Le plus bel exemple, c'est la description du singe devant un miroir. J'ai vu ça, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que le singe se trouve dans un miroir. Il a sa tache sur son front et il voit un singe en face de lui dans le miroir. Donc il regarde et puis ensuite il va regarder derrière le miroir. Il n'y a personne. Donc il revient devant le miroir et puis il fait un geste. Et il voit que l'animal en face fait le même geste. Donc il fait plusieurs gestes et au bout d'un certain temps, il comprend que c'est lui. Et à ce moment-là, il se comprend que la tâche, c'est lui. Donc, c'est une ébauche de ce qu'on appelle métacognition, c'est-à-dire une ébauche de conscience d'être soi-même. Est-ce que ça veut dire que le singe est conscient d'être conscient? C'est un peu compliqué, là. Ça, c'est pas sûr. Moi, je ne le crois pas, personnellement.
Et les éléphants aussi, sont les capables de la même chose.
Les dauphins aussi, dauphins très intelligents.
Est-ce qu'on passe beaucoup de temps par jour, justement, dans ces états de conscience ou de subconscience?
Alors
ça dépend des individus, ça dépend de l'âge, ça dépend de quoi? Des situations?
Mais moi, je vous pose la question. Combien de temps passez-vous dans une journée à vous dire que vous existez ou que vous faites quelque chose. Très peu, hein, finalement. Enfin, je ne sais pas pour vous, moi en tout cas, c'est très peu. Combien de temps nous passons à avoir des activités non automatiques, intelligentes, créatives, raisonnement, jugement, etc.
Tout dépend là aussi des personnes et
ça
des
dépend,
activités.
Ça dépend, peut-être certains métaphysiciens, certains intellectuels de gauche, je ne sais pas.
Pourquoi de choses... gauche
Je ne sais pas, je dis ça comme ça.
C'est marrant, oui, mais... comme ça, en passant, oui.
Par contre, en comportement automatique, donc subconscient, nous sommes sans arrêt, c'est ce que nous faisons maintenant.
Ouais. Gilles nous dit, est-ce que le réflexe de rattraper un objet qui tombe fait partie du subconscient ou est-ce que c'est un acte réfléchi?
Ça, c'est une très bonne question, parce que c'est un peu intermédiaire. Le réflexe, c'est je mets mon doigt sur une plaque chauffante et je le retire. C'est-à-dire que c'est géré par la moelle épinière. J'ai une sensation de brûlure qui fait mal, qui va jusqu'à la moelle épinière, et j'ai une réponse immédiate, motrice, par la moelle épinière. Ensuite, je ressens la douleur après. Dans le fait de rattraper un objet, il y a quelque chose du réflexe, mais il faut néanmoins avoir un comportement subconscient, parce que, rendez-vous compte, ce mouvement extrêmement compliqué d'aller attraper un objet...
En une fraction de seconde, en fait, c'est quelque
chose. Ça veut dire qu'on a le programme de ce geste complètement surappris de pouvoir faire des gestes comme rattraper un objet. On dirait la même chose du musicien, du danseur ou du joueur de tennis, hein, qui ont ces comportements extraordinaires.
Ce qui est absolument fascinant, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. C'est-à-dire que le cerveau a une réponse totalement phénoménale.
Très vite. Je donne là l'exemple du joueur de tennis, par exemple, le serveur. On sait qu'un serveur au tennis, les bons font des balles à 200 km à l'heure. Celui qui reçoit la balle ne prend conscience de la balle que lorsqu'elle a franchi le filet. Autrement dit, tout son comportement pour renvoyer la balle est subconscient.
Ouais.
C'est quelque chose qui va très vite et qui ne met pas en jeu la conscience proprement dite. Ouais. D'ailleurs, on le voit très bien, parce que quand vous avez un joueur de tennis qui reçoit une balle, soit il la renvoie très facilement, c'est automatique, soit il bouge pas.
Et il s'est trompé. On verra avec vous justement si ça s'apprend au fond, le subconscient. Parce qu'on voit qu'il y a tout un apprentissage derrière ces gestes qui deviennent automatiques.
Sûr,
en tout cas, il y a des choses qui se passent.
Des heures et des heures pour un tennisman ou un danseur.
C'est très discuté ça aujourd'hui, la subconscience. Vous dites que ça revient à la mode, mais ça veut dire quoi concrètement?
C'est un concept qui est bien discuté par les scientifiques fondamentaux qui travaillent, font de la physiologie des structures cérébrales.
Oui.
C'est un concept qui n'est pas tellement abordé par les psychologues, à ma connaissance, en sciences humaines et sociales. On parle surtout de conscience. Il y a des modèles de conscience qui ont été élaborés, notamment par l'école française, et essentiellement quand même l'inconscient au sens freudien du terme, qui n'a rien à voir.
Sur Twitter, Serpent à plumes, c'est son nom, nous demande si les différences entre les actes conscients et subconscients sont maintenant visibles dans le cerveau par imagerie médicale. C'est justement tout ce qui a changé, au fond.
Oui, on le voit. En gros, quand vous faites quelque chose de conscient, consciemment, c'est la conscience, c'est pas au sens de la vigilance. C'est pas je perds conscience. C'est d'avoir une réflexion sur ce qu'on fait. Je pense que je pense ou que je fais quelque chose. Eh bien, ça, c'est géré par le cortex cérébral, notamment dans sa partie antérieure, frontale, alors que la subconscience, c'est essentiellement géré par ces petites structures dont j'ai dit un mot tout à l'heure, qu'on appelle les noyaux gris centraux, 1/50 du poids du cerveau, situé à la base du cerveau et qui existe depuis des millions d'années au cours de l'évolution. Donc, il y a un dialogue permanent entre des comportements subconscients qui sont permanents, comme on a dit tout à l'heure, qui sont gérés par en bas, mais qui donnent des informations au cortex cérébral, qui est à la périphérie du cerveau, et la conscience qui est gérée par le cortex cérébral et qui peut interrompre le comportement automatique. Par exemple, si je vous dis quelque chose de bizarre, vous allez prendre un air perplexe et vous allez arrêter votre comportement. Mmh. Ça va être, à ce moment-là, votre cortex cérébral va dire « Ouh là là, il faut que j'arrête là ». Alors, donc, c'est un dialogue permanent entre le cortex et les noeuds gris centraux.
Thierry nous dit ceci sur franceinter.fr. Depuis l'homme des cavernes et ses peintures jusqu'à l'homme moderne, est-ce qu'on peut dire que la conscience a évolué?
Oui, elle a évolué. Elle a évolué en parallèle avec le développement du cortex cérébral. Si vous voulez, Lucie, des millions d'années auparavant, avait un cerveau plus petit où le cortex cérébral, la couche superficielle du cerveau, notamment la partie antérieure, était très peu développée. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est le développement maximum. Donc on pourrait en conclure, mais on tourne en rond, qu'aujourd'hui, ce qui fait la qualité, entre guillemets, de l'homme moderne, c'est sa capacité de conscience, ce que Marcel Gauchet appelle le grand témoin.
Qu'est-ce que vous entendez par comportement maximum?
On pourra pas le plus élaboré, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Pas de jugement de valeur.
Vous ne pensez pas que ça pourra encore évoluer, alors?
Si, peut-être. Ce grand témoin qui est la conscience, je trouve que c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de juger nos comportements, le nôtre, mais aussi de juger le comportement des autres. Et donc, je trouve que c'est important pour tout ce qui concerne l'éthique qui, comme vous le savez, est un problème qui m'intéresse.
Il s'agit justement ce pilotage automatique. C'est une bonne image justement pour parler de ce subconscient. Quelle est sa qualité première au fond ? Du point de vue de l'évolution, qu'est-ce que ça apporte à l'espèce humaine, par exemple ?
On peut le voir sous deux angles, si vous voulez. D'un côté, imaginez que vous n'ayez pas de subconscience, vous seriez assailli par une myriade d'informations permanentes et vous deviendrez fou. Imaginez que vous soyez conscient, vous rendez conscience de tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez, les voitures qui passent, les gens, les couleurs, les machins, etc. Vous ne pourrez plus penser. Alors, Dieu merci, la conscience gère ça et vous permet de vous désengager votre esprit pour vous consacrer à éventuellement des choses plus intéressantes.
Donc le subconscient fait le tri.
Sans ça, elle fait le tri, effectivement.
Ouais. Elle nous libère.
Sans ça, la vie serait d'un ennui mortel. Enfin, on deviendrait fou. Ouais. La deuxième raison est beaucoup plus importante encore, c'est qu'au cours de l'évolution, les animaux qui ont de la subconscience continuent de vivre. C'est assez incroyable. Regardez le sélacanthe qui existe depuis des millions d'années et qui n'ont pas bougé et qui ne vivent évidemment sans conscience. Ceux-là ont un petit comportement subconscient qui est très mineur, mais quand même.
Mais ça joue quoi? Ça joue un rôle d'alerte aussi pour l'animal? On parlait de la survie tout à l'heure.
Oui, ça joue un rôle d'alerte, mais c'est pour des choses élaborées. Si vous êtes un ver de terre, pratiquement, il n'aura qu'un comportement réflexe. C'est-à-dire que s'il sent un changement de température ou un toucher, toc, il va avoir un comportement de fuite. À part pour avoir être subconscient, c'est des comportements quand même beaucoup plus élaborés.
Christophe sur Twitter demande si les tocs sont des cas de subconscience aiguë.
Ce n'est pas des subconsciences aiguës, c'est un dysfonctionnement de la subconscience. C'est quelque chose que nous avons beaucoup étudié dans notre groupe. Dans un TOC, vous avez un dysfonctionnement justement de ces structures profondes, qu'on appelle les nœuds gris centraux, si bien que, n'ayant plus d'informations, le cortex cérébral qui est devant n'a plus de comportement automatique pour ces questions-là. Il faut rappeler peut-être ce que c'est qu'un TOC. Un TOC, ce sont des gens qui ont des obsessions, par exemple de symétrie ou surtout de vérification, et qui en sont très angoissés à cause de ça, et qui vont développer des rituels qu'on appelle des compulsions, qui sont des comportements automatiques, pour essayer de régler leur angoisse. Et on peut très bien comprendre que si vous n'avez plus de comportement automatique, comme on peut l'avoir dans un TOC sur ce plan-là, à ce moment-là, le cortex cérébral se met en action, et lui, il est conscient. Donc il va dire, chaque fois qu'il y a une décision à prendre, que vous devez prendre de manière automatique, comme par exemple changer de rue. À ce moment-là, il va se dire, attendez, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Alors, si je vais à droite, j'ai ça, il va se placer ça, ça et ça. Oui, c'est vrai, peut-être, mais si je vais à gauche, de l'autre côté, il y a 1, 2, 3. Et ça peut devenir, dans le TOC, ce qu'on appelle la folie du doute. Oui. C'est-à-dire que les gens sont tellement hésitants qu'ils ne peuvent plus même faire un acte élémentaire.
Oui. Donc, pas assez de subconscient, on pourrait dire les choses comme ça. Oui. Et trop de subconscient, ça pourrait donner quoi à l'inverse alors?
Ça deviendrait l'idiotie, je crois, ça.
Ah oui, tout simplement.
Parce qu'il faut quand même... vous avez un exemple quand même avec des animaux qui sont pratiquement subconscients. Prenez, je ne sais pas moi, un reptile par exemple. Le reptile n'a pas de comportement conscient, l'oiseau non plus, les oiseaux non plus. Et d'ailleurs, entre parenthèses, leur cerveau n'est fait que par ces petites structures dont nous parlons, les nœuds gris centraux. Ouais. Et ben, vous voyez, le comportement peut être très habile, très intelligent, mais il est automatique.
Yves Agide, ça commence quand justement le subconscient dans la vie d'un individu? Est-ce que le bébé naît avec une bonne dose de subconscient ou est-ce que ça s'apprend?
Il apprend. À la naissance, il n'a pas. Il a des comportements réflexes, de succion, etc. Mais très rapidement, à partir du moment où il commence à marcher, par exemple, la marche est un comportement subconscient, c'est quelque chose d'appris. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les comportements subconscients sont appris. La marche en est un bon exemple. Donc on pourrait dire qu'en gros, les comportements subconscients apparaissent chez l'enfant à 1 an.
Guillaume demande si la subconscience pourrait expliquer les phénomènes d'intuition.
Oui, absolument. Ça, c'est même très intéressant. C'est le coup de la découverte. Eureka, ou le coup de l'oubli bénin. Vous vous rappelez, c'est la maladie de... Ah zut, je ne me souviens plus du nom. vous dites ça, vous cherchez le nom.
Alors,
et le soir, vous êtes en famille et puis vous êtes en train d'avaler votre soupe et puis d'un coup, ça vient. Alzheimer. Il y a eu un traitement subconscient de l'information pendant toute la journée et le mot vous revient. Pour l'intuition, c'est pareil. Le fameux théorème de Poincaré. Poincaré, on dit, a découvert son théorème en mettant le pied dans l'autobus. Il avait pensé à son théorème, mais tout d'un coup, il y a eu un traitement subconscient de l'information qui tout d'un coup a rejailli, provoquant le eureka de la découverte du théorème.
Yves Agide, on n'a pas eu le temps beaucoup d'en parler, mais évidemment, on étudie aussi ces noyaux, hein, très particulièrement pour essayer de guérir des pathologies, Parkinson en particulier. Oui. Ça, vous l'évoquez dans le livre. Hein. C'est très important. Il y a des pistes de recherche là-dessus
qui sont fondamentales. Oui, parce que quand ces noyaux gris sont touchés, ils sont malades, donc la subconsciente est malade. Donc nos comportements automatiques ne s'apparaissent pas. On a des mouvements anormaux involontaires, comme dans le Parkinson. Oui. On peut avoir aussi des émotions anormales involontaires. C'est tout le chapitre de la psychiatrie.
Yves Agide, qui était dans La Tête au Carré, qui publiait chez Robert Laffont un livre autour de ce sujet, L'homme subconscient.
Once in a while, the dust of wind, you were my best one, a man who was your man.
Pharrell Williams et Daft Punk avec Guts of Wind à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Le pouvoir de la musique est immense, omniprésent dans nos vies depuis la naissance jusqu'à notre mort. La musique imprègne notre cerveau dans toutes les étapes de notre existence et de plus en plus d'études scientifiques apportent la preuve des bienfaits et des pouvoirs thérapeutiques de la musique. Emmanuel Bigan est professeur de psychologie cognitive à l'Université de Bourgogne. Il est membre de l'Institut universitaire de France et directeur du LID, le laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement, qui est situé à Dijon. À ses côtés, Hervé Platel, professeur de neuropsychologie et membre du laboratoire INSERM Neuropsychologie Cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine. Ensemble, ils ont publié aux éditions Belin Le cerveau mélomane. Et c'est vrai que les outils les plus récents ont permis de faire des avancées considérables pour comprendre comment la musique agit sur notre cerveau. Emmanuel Bigan et Hervé Platel étaient venus nous en parler. Emmanuel Bigan, donc c'est vous qui coordonnez cet ouvrage collectif, Le cerveau mélomane, rédigé par des chercheurs qui ont exploré donc la puissance de la musique sur les capacités cognitives et intellectuelles. Est-ce que tous les chercheurs du livre, d'ailleurs, sont eux-mêmes musiciens comme vous ou pas ?
Ah, pas nécessairement. Certains le sont, d'autres le sont pas. C'est pas une obligation. Je pense que lorsqu'on fait de la musique, on voit les choses aussi de l'intérieur. Mais les besoins scientifiques ne requièrent pas cela. Ouais. Il suffit d'avoir les bonnes méthodes et d'avoir les bons outils pensés.
Et les méthodes ont changé. Les outils les plus récents, en tout cas, ont permis de faire des avancées considérables, précisément sur ce thème, pour comprendre comment la musique agit sur notre cerveau.
Oui, considérablement. C'est vrai que les questions dont on va parler cet après-midi n'auraient pas été possibles, imaginables il y a 20 ans, ouais. Sous l'angle scientifique en tout cas.
Ouais. Et vraiment, là, les techniques de neuroimagerie du cerveau, là, donc, depuis les années 90, ont vraiment permis de changer de point de vue et puis de se dire, bah, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un individu normal ou musicien lorsqu'il entend de la musique, et ça a vraiment changer la donne d'un point de vue des indicateurs qu'on pouvait avoir sur l'effet de la musique sur notre corps. Mais notre corps, c'est avant tout le cerveau. Et évidemment, il ne faut pas négliger que la musique a un effet sur le corps, mais c'est via le cerveau. Je crois qu'il faut être clair là-dessus.
Ouais, et donc évidemment, l'imagerie cérébrale a permis de voir les choses vraiment autrement. Et puis la cartographie du cerveau pour aussi comprendre quelles sont les zones concernées par la musique, par exemple.
Oui, alors il faut... Les neurosciences nous ont beaucoup aidés. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est une démarche aussi interdisciplinaire. Et on a d'autres collègues, dont les ethnomusicologues, par exemple, qui ont beaucoup aidé à repenser et à mieux comprendre l'activité musicale dans notre société, et d'autres disciplines, l'anthropologie aussi, qui a apporté beaucoup d'éléments. Donc c'est une démarche vraiment interdisciplinaire. Les neurosciences nous ont apporté des informations précises sur comment l'organe produisait et réagissait à la musique, mais toutes les autres disciplines qu'on appelle des sciences cognitives ont apporté des éléments qui contribuent aujourd'hui à penser différemment la musique définitivement.
Est-ce que tout ça n'a pas permis justement à la musicothérapie de s'inscrire vraiment dans un autre espace par rapport aux décennies passées, avec là pour le coup la science qui montre des choses très particulières?
Il y avait depuis très longtemps tout un tas de pratiques empiriques utilisant la musique, et surtout avec un abord où la musique était utilisée comme un média de relation, un média relationnel où le thérapeute allait se servir de la musique pour entrer en relation avec son patient, mais pas pour le guérir via la musique. Je pense que c'était pas ça l'idée, ou en tout cas éventuellement chez certains.
Là on parle vraiment de la musique qui soigne maintenant.
Alors maintenant on parle vraiment de la musique qui soigne. Je pense qu'il faut rester très très prudent par rapport à cet aspect. Et là, on peut dire, on va donner des exemples, la musique en tout cas qui stimule, la musique qui relaxe, la musique qui peut calmer la douleur, la musique qui peut apporter tout un tas de bénéfices cognitifs, et dont on comprend de mieux en mieux quels en sont les mécanismes qui permettent d'expliquer ces effets. Ouais. Mais la musique qui soigne, je pense qu'il faut
prendre quelques précautions. Pourtant, vous employez le mot, Emmanuel Bigan.
Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait aujourd'hui que la musique a un effet sur le fonctionnement cérébral. Ça modifie les connexions synaptiques, ça crée donc une plasticité, ça entraîne des modifications au niveau de la biochimie du cerveau. Donc il y a un véritable effet, c'est pas simplement un effet intellectuel, le plaisir musical, ça rentre vraiment dans le cerveau. Alors à partir de là, la vraie question, c'est comment on va pouvoir exploiter au mieux ces effets-là dans une perspective de santé.
Alors justement, Emmanuel Bigan, il faut parler là vraiment de l'imprégnation, en tout cas de la musique dans notre cerveau, et ce, dès les premières heures de notre vie, même avant que nous naissions quasiment.
Oui, alors ça c'est vrai, on a des études qui sont très bien faites maintenant sur l'impact de la musique chez le fœtus et comment il va mémoriser. La dernière étude en date montre que si on répète une chanson à un bébé avant sa naissance et qu'ensuite, quelques mois après, on lui fait entendre cette chanson en changeant des notes, il a des réactions électriques au niveau du cerveau qui sont différentes. Donc il montre bien qu'il a bien compris qu'on avait changé certaines notes à la mélodie qu'il a entendue avant de naître. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que par-delà le fait en lui-même, qu'il y a une prédisposition du cerveau humain à traiter cette dimension du sonore bien avant que l'enfant ait découvert le langage. Et pour nous, c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'on pense que la musique va jouer un rôle considérable dans l'émergence des fonctions de communication par l'oralité et donc va jouer un rôle considérable dans l'émergence du langage. Oui. Et c'est pour ça qu'elle va avoir un impact très très important sur le bébé, mais ensuite sur l'adulte.
Oui. Hervé Platel.
La chose amusante, donc, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus d'études de neurosciences sortent en fin de compte du modèle humain pour s'intéresser au modèle animal. Et en fait, même chez l'animal, de manière étonnante, hein, que ce soit avec des modèles genre des rats ou des souris ou voire même en fin de compte des poules, eh bien on fait écouter de la musique donc à des autres poules. Vous allez me dire c'est complètement délirant.
C'est un petit peu bizarre.
Il y a des papiers qui viennent de sortir et qui sortent dans des revues tout à fait sérieuses et qui montrent en fin de compte que la présentation de musique à des œufs de poules, les poussins qui sortent, eh bien ont un taux en fin de compte de neurones dans cette région, notamment l'équivalent de l'hippocampe chez le poussin ou en fin de compte dans les noyaux auditifs qui sont augmentés et un taux de myéline, c'est-à-dire de cellules qui complètent le cerveau, qu'ils nourrissent, qui est plus important. Alors ça c'est tout à fait surprenant parce que en fait c'est un effet qui est musical dans le sens où quand on fait écouter des sons aléatoires à ces œufs, on n'a pas ce type d'effet. Et en plus les poussins qui entendent de la musique ont de meilleures performances d'apprentissage.
Voilà, les poules mélomanes, elles aussi. On va écouter une chanson que vous avez choisie, Manuel Bigand, pour illustrer notre sujet. C'est Henri Salvador.
Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant.
Alors, pourquoi ce titre, justement, d'Henri Salvador? C'est pour nous dire quoi, Emmanuel Bigand?
Bah écoutez, en fait, je pense que cette chanson, c'est une chanson, bien évidemment, mais elle récapitule un petit peu le suivi que la musique va avoir depuis la tendre enfance jusqu'à la fin de la vie. Ouais. Et je ne veux pas dire c'est évident pour les enfants, on sait bien que c'est dans ce contact chanté entre la maman ou l'environnement avec l'enfant que l'enfant va s'inscrire dans une sorte d'humanité sonore. Mm-hmm. Mais lorsqu'on travaille avec des patients, et pour l'avoir fait avec des patients Alzheimer en fin de vie, on se rend compte que la musique qu'on leur apporte, elle a à peu près cet effet de la chanson douce que leur chantait la maman autrefois.
C'est-à-dire qu'on est musical et on meurt musical.
Et on meurt musical. Et je pense que cet effet-là de douceur accompagne et est une chose que les patients, presque quelle que soit leur pathologie, ressentent tout de suite lorsqu'on intervient. Ouais. Et c'est vrai que ça contribue à réhumaniser la relation au patient et à réhumaniser le patient lui-même.
Ouais. Et puis on en parlera bien sûr avec les personnes âgées hein, qui, même donc dans la maladie, avec la musique, eh bien, parviennent à réveiller en tout cas leur mémoire. Ce sont des études qui ont été réalisées. Hervé Bigand, la musique existe dans toutes les cultures du monde et depuis des temps très anciens. On a retrouvé des instruments datant de 40 000 ans, c'est ça?
On a trouvé des instruments manufacturés qui datent de 40 000 ans. Et donc, comme ils étaient déjà l'objet d'une certaine technicité de lutherie, on pense que la musique, en tant que telle, était une activité reconnue comme étant extrêmement importante dans les sociétés humaines bien avant.
Oui, donc ça accompagne l'humanité vraiment depuis très longtemps. Et toujours, évidemment, bien sûr.
Oui, je crois que Stéphane Pinker a dit un jour, si la musique disparaissait, la vie des hommes ne serait pas fondamentalement changée. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Et on a des très bonnes raisons scientifiques maintenant de comprendre que c'est fondamentalement une erreur.
Oui, Hervé Platel, et effrayant ce type de déclaration quand même.
Oui, évidemment, on peut penser que la musique, surtout quand on pense à la musique écrite, c'est quelque chose, c'est un phénomène très récent. Mais en définitive, on voit bien que les pratiques musicales sont très anciennes et pas seulement les pratiques instrumentales, même si on a de plus en plus de traces fossiles de pratiques instrumentales. Mmh. La question de savoir si l'homme a chanté avant de parler.
J'allais vous le demander,
Je pense qu'il y a des ethnologues, donc des ethnomusicologues qui, maintenant, sont tout à fait convaincus qu'on a peut-être été, en fin de compte, une espèce qui a eu des vocalisations de socialisation, comme les primates peuvent en avoir, les bonobos, les chimpanzés, les orang-outans, etc., sont des primates qui ont des vocalisations de socialisation, notamment lorsque les mères s'occupent des petits et qui transmettent un message particulier. Et je pense que c'est peut-être un lien qu'on a directement avec nos anciens cousins.
Reza sur Twitter nous demande ceci. Quelle différence entre l'effet de la musique et l'effet de la parole, des bruits ou autres stimuli auditifs sur les patients? Emmanuel Bigand, pour lui répondre.
Oui, c'est facile. En fait, la pathologie conduit à perdre les capacités linguistiques beaucoup plus rapidement qu'à perdre les capacités musicales. Autrement dit, la musique est beaucoup plus robuste à la pathologie cérébrale que le langage.
Et ça, on le voit très clairement chez des patients atteints de maladies neurodégénératives, justement.
Exactement. Chez les patients Alzheimer, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une conversation. Même, ils n'ont parfois pas du tout envie de parler. Par contre, avec la musique, ça marche très, très bien. Et ça nous indique, nous, du point de vue scientifique, qu'il y a peut-être une antériorité, là encore, de la musique sur le langage, sachant que, selon un grand principe, les fonctions les plus robustes sont probablement les plus anciennes dans la phylogénèse.
Ouais. Hervé Platel, parlez-nous justement de ces expériences qui sont menées par exemple près de Caen, auprès des personnes malades d'Alzheimer, c'est
Alors, tout à fait. Alors, des patients qui sont en institution, donc ce qui veut dire que ce sont des patients qui sont à un stade avancé de la pathologie. Et vous savez, bon, l'image que l'on a de la maladie d'Alzheimer, c'est quoi? Ce sont des patients qui ont une maladie de la mémoire et qui ne peuvent plus rien apprendre de nouveau à long terme. Et c'est l'image qu'on en avait effectivement nous-mêmes en tant que spécialiste de la neuropsychologie pendant des années. Et en fait, une expérience originale a été mise en place d'apprentissage de chansons nouvelles auprès de ces patients, ce qui était a priori complètement insensé d'essayer de faire cela. Et c'est le docteur Odile Le Tortue, qui était médecin gériatre dans cette institution, qui est venu nous voir au niveau du laboratoire et en disant « Écoute, moi j'ai un atelier d'apprentissage de chansons nouvelles et les patients sont capables d'apprendre ces chansons. » Alors, ils ne sont pas capables d'apprendre le texte de la chanson par cœur, mais ils sont capables de mémoriser par cœur la mélodie de chant. Ils ont appris comme ça tout un tas de chansons qu'ils ne connaissaient pas. Et clairement, ils ne se souviennent pas avoir appris dans le contexte des ateliers ces chansons. Mais ces chansons deviennent familières. Et quand on leur pose la question, mais cette chanson, vous la connaissez depuis quand? Et la plupart des patients répondent, oh, moi je la connais depuis toujours, je l'ai appris quand j'étais jeune. Ouais. Donc ils ne retrouvent pas la source en fin de compte des apprentissages. Alors qu'est-ce que nous apprennent ces expériences? Eh bien que, en fait, on avait vraiment sous-estimé que dans le cerveau de ces patients, même très détériorés, il existait encore une possibilité d'apprentissage et d'encodage à long terme que nous, dans
notre jargon,
on appelle apprentissage implicite ou inconscient.
Ouais. Alors pourquoi la musique et pas avec les mots?
La musique a été le révélateur de cela. Les mots, c'est très spécifique. Effectivement, on a quelque chose d'un mode de fonctionnement, notamment de la mémoire des mots, qui est assez spécifique. Et on sait en neurologie que c'est surtout dans l'hémisphère gauche. La neuroimagerie nous a appris que la musique, ce qui pourrait sembler être un inconvénient, mais qui est un avantage majeur pour les thérapies, c'est que la musique ne fait pas fonctionner juste un petit centre cérébral, une petite région particulière, mais fait fonctionner le cerveau de manière très large, à la fois dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, cette expérience d'apprentissage de chants nouveaux nous a pointé du doigt qu'on était passé complètement à côté chez ces patients du fait que leur cerveau continuait à mémoriser, mais ils ne peuvent pas en rendre compte.
Ouais. Emmanuel Bigand, donc là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'il y a aussi des promesses, pas forcément traitement, mais en tout cas dans la prise en charge des personnes.
Oui, ce qui est important, c'est que ça dépasse largement le cadre de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, lorsqu'on a des patients qui ont des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, ils perdent en général la fonction du langage. Et si vous rentrez juste après l'opération auprès de ces patients que vous parlez, ils ne vous répondent pas. Mais si vous leur jouez une chanson qui est connue, ils se mettent à fredonner. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans une production linguistique si la musique est là, mais pas s'il y a juste une sollicitation linguistique. Et ça, on a pu montrer que les stimulations musicales sont bien meilleures pour relancer la plasticité cérébrale après une attaque cérébrale, y compris pour les fonctions linguistiques, que la parole.
Alors justement, est-ce que ça marche avec toutes les musiques? Parce qu'il y a le dernier chapitre, je crois, du livre qui s'appelle « Musique contemporaine, un défi pour le cerveau ». C'est vrai qu'on a une réaction par rapport à la musique contemporaine qui est totalement différente d'une musique connue ou d'une musique classique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que notre cerveau, justement, sa plasticité n'est pas encore rentrée totalement en phase avec ce qu'on entend?
Je pense que les musiciens contemporains continuent à faire ce que tous les musiciens ont toujours fait durant toute l'histoire de l'espèce, c'est-à-dire qu'ils sollicitent notre cerveau, ils cherchent des modes d'expression qui poussent notre cerveau aux limites de ce qu'il a l'habitude de faire.
En lui donnant des informations nouvelles aussi.
En lui donnant des informations nouvelles.
Relativement nouvelles en tout cas.
Oui, en lui demandant des exercices d'écoute différents, en se décentrant cognitivement, si je peux dire. Mm-hmm. Et ça, c'est bon pour développer des ressources neuronales et c'est bon pour justement développer une plasticité. Donc j'ai envie de dire, la musique contemporaine, elle est extrêmement importante. ça.
Mais cette musique qui peut nous paraître un peu rugueuse parfois pour les non-initiés, est-ce que ça veut dire que notre cerveau, à force d'en entendre, dans 50 ans par exemple, considérera cette musique comme un morceau classique de Mozart ou de Chopin?
C'est clair, on est déjà exposé, Emmanuel l'a bien montré dans ses travaux, en fin de compte, même quand on est non-musicien, on est déjà une sorte d'expert, en fin de compte. La musique contemporaine, un peu rude, comme vous dites, c'est pas une musique qui nous est complètement inconnue. Elle a été introduite aussi petit à petit culturellement, notamment au cinéma. Mm-hmm. 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick, effectivement, bon, y a du Ligeti et y a tout un tas de films où, en définitive, la musique contemporaine a été utilisée. Et dans nos oreilles de non-musiciens, ben, on devient de plus en plus familier avec ça. La neuroplasticité, on dit souvent, d'ailleurs, qu'il y a l'effet exposition, hein, un tube que vous entendez à la radio, même si vous ne l'aimez pas forcément au premier abord, à force d'être répété, on finit plus ou moins par l'aimer, pas toujours.
Ouais. Alors Emmanuel Bigand, entre le cerveau d'un professionnel de la musique et d'un non-musicien, qu'est-ce qu'on voit justement à l'imagerie? Est-ce qu'il y a vraiment de grandes différences ou est-ce qu'au contraire, tout le monde a les mêmes chances au départ par rapport à la musique?
Alors, au niveau du cerveau, bien sûr, il y a des différences qui sont dues au fait que le musicien professionnel pratique un instrument et que pour faire cette pratique, il a dû développer des tas de compétences motrices, mais également cognitives, qui sont liées à la pratique. Donc, de ce point de vue-là, on a des différences. Ceci étant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si un non-musicien a la possibilité d'entrer dans cette activité avec autant de finesse, de richesse, qu'un musicien qui la pratique de façon professionnelle. Et de ce point de vue-là, pour simplifier les choses, on peut faire une comparaison avec le langage. Il n'y a pas de raison de penser que les étudiants en linguistique comprennent et lisent et apprécient un roman de Proust différemment qu'un étudiant qui s'intéresse à la littérature mais qui a fait des mathématiques comme étude. Et c'est un petit peu ce qu'on montre en musique, c'est-à-dire que toute la partie importante de ma recherche a été sur cette question-là. Les non-musiciens participent complètement par l'écoute de façon implicite à la compréhension des structures.
Et qu'est-ce qu'on voit dans le cerveau d'un musicien professionnel ou d'un grand chef d'orchestre, par exemple, qui a fait toute sa carrière?
Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, les chercheurs, en utilisant la neuroimagerie, se sont intéressés aux musiciens professionnel comme un modèle de neuroplasticité pour étudier la neuroplasticité du cerveau. Et ils se sont intéressés au tout début à ce qui allait changer de manière évidente quand on fait de la musique, c'est-à-dire les régions perceptives du cerveau et les régions motrices. Mais en définitive, et c'est ce que nous on a montré notamment sur Caen avec des sujets musiciens, c'est que les régions sollicitées au niveau du cerveau par l'apprentissage musical vont bien au-delà des régions perceptives et motrices. Et ce sont aussi les régions de la mémoire. Et on a pu montrer, nous, que sur l'ensemble du cerveau, des sujets jeunes musiciens avaient une augmentation du nombre de neurones dans leur hippocampe, la région cérébrale donc d'entrée de la mémoire, donc qui était bien au-delà des sujets témoins. Donc en fait, ça sollicite aussi beaucoup les circuits de la mémoire, l'apprentissage de la musique. Après, il faut voir si c'est un effet de spécificité ou pas. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de comprendre.
Sophie nous envoie ce message. Je me suis rendu compte, dit-elle, au plus fort de moments de dépression, que les morceaux de jazz avec piano avaient une influence quasi instantanée et bienfaisante sur mon état d'âme du moment. J'en garde un puissant enseignement et je veille chaque jour à ma dose de piano jazz. Sur l'anxiété, là aussi, il y a des résultats probants.
Très bon, vraiment. Alors, on peut peut-être faire une petite parenthèse. C'est sûr que la musique peut être utilisée de plein de manières différentes, à la fois de manière relaxante, c'est quelque chose d'ancien. On évoquait la diminution de la douleur tout à l'heure, donc dans un contexte de relaxation. Et ça a même été montré, là encore, je reviens au modèle animal, mais chez des rats hypertendus, modèle de rats hypertendus, eh bien, quand on leur fait écouter de la musique dont le tempo ralentit, on voit une baisse, non pas du rythme cardiaque, mais en fin de compte, leur hypertension diminue. Et donc, on a le même phénomène chez les patients. On peut diminuer leur stress, leur tension, etc. Mais la musique, c'est aussi pour stimuler le cerveau. Donc, c'est relaxer et stimuler. C'est pour ça que c'est extrêmement riche, en fin de compte, les applications qu'on peut en faire.
Emmanuel Bigand ?
Oui, je crois que la façon dont on écoute la musique tous les jours répond intuitivement à cette idée qu'on modifie nos états d'âme et nos états émotionnels. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que ces modifications-là ne sont pas simplement intellectuelles, ça correspond à des vrais changements biochimiques dans notre cerveau qu'on a pu montrer. Donc, alors après, le piano jazz ou autre chose, peu importe, mais c'est vrai que ces effets-là ne sont pas des effets placebo, ça correspond vraiment à une réalité physiologique. L'autre chose qu'on peut dire aussi, pour le grand public, je pense que c'est important de savoir que le cerveau répond tout de suite à la musique. C'est-à-dire, si vous avez 40 ans, vous n'avez jamais fait d'études musicales, que vous commencez à faire de la musique, votre cerveau va réadapter ses connexions et va se transformer pour accepter et puis peut développer cette activité que vous lui proposez. Donc le cerveau peut être changé par la musique à n'importe quel moment de la vie,
et
même s'il
débute tard. Et à plein de niveaux, c'est ça qui est très étonnant. C'est, on parlait de neuroplasticité, ça veut dire quoi? Mais c'est l'augmentation du nombre de neurones, mais c'est aussi l'augmentation des fibres de connexion, mais c'est aussi des effets, et ça c'est tout à fait nouveau. On a publié une étude là, qui est sortie en janvier. Quand on enregistre le cerveau au repos de musicien, ben, on peut voir en faisant une analyse de connectivité du cerveau, eh bien que leur apprentissage musical a permis à certaines régions du cerveau de dialoguer plus souvent ensemble que d'autres.
Et pour terminer ce tweet de Cyanotype, que pensez-vous de la pratique musicale tout au long de la vie ?
Ben, c'est ce qui nous intéresse fondamentalement. Effectivement, alors, il y a des études qui montrent que chez l'enfant, ça peut éventuellement le rendre plus intelligent. Alors ça, il faut s'en méfier. En tout cas, que ça peut peut-être être favorable à ses apprentissages scolaires. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on peut bien vieillir grâce à la musique.
Emmanuel Bigan, pour conclure.
Oui, moi je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on fait de la musique pour le plaisir de faire de la musique et de communiquer avec les autres par des sons. Ce qu'on veut simplement dire du point de vue scientifique, c'est que cette activité-là, elle a un impact sur notre cerveau et que ça a des conséquences pour la santé et que notre société peut en tirer des gros avantages pour les grands défis d'éducation et de santé qu'elle va avoir à résoudre.
Emmanuel Bigan et Hervé Platel, auteurs d'un livre, Le cerveau mélomane, c'est aux éditions Belin.
We'll be right back.
Yael, jeune fille garnement sur France Inter. Voilà, c'est terminé pour cette rediffusion des dossiers de La Tête au Carré. Merci à Patrick Henry qui était avec nous à la technique. Demain, il sera question d'accents régionaux et de Madame de Néandertal. En attendant, passez une excellente journée sur France Inter avec Fabrice Drouel dans un instant.
Vous écoutez France Inter en 2015 et c'est une bonne nouvelle. Tout de suite après les informations, affaire sensible. L'histoire du scandale de Festina, plus qu'une simple affaire de triche, de Tour de France et d'hormones, c'est un conte de notre temps, du péplum moderne, diffusé dans le monde entier par satellite. Et les gladiateurs sont à bicyclette. À 19h20, le téléphone sonne avec Hélène Jouan. Et si 2015 était l'année des grands basculements, ils ont fait des choix courageux, déterminants. Ils en parlent ce soir. Pourquoi et comment se construire une nouvelle vie? À 21h, les meilleurs concerts de France Inter, les révélations et les goûts musicaux de votre radio. J'ai nommé Christine and the Queens, Arthur Ashe, Jeanne Chéral, avec l'Orchestre National de Radio France. Bonne journée sur France Inter.